Chapitre 12. Pourquoi l'un grossit et l'autre pas, ou vice-versa. Nous avons vu que l'insuline faisait grossir. Mais dans ce cas, comment se fait-il que nous ne soyons pas tous concernés? Car après tout, chacun d'entre nous sécrète cette hormone, ce qui n'empêche pas que de nombreux êtres humains soient minces et le restent toute leur vie. Cette question concerne notre part d'inné, notre prédisposition génétique, et non la part d'acquis, régime alimentaire et ou mode de vie. La réponse tient au fait que les hormones ne fonctionnent pas en vase clos, et l'insuline pas plus qu'une autre. L'effet qu'a une hormone sur un tissu ou sur une cellule dépend d'un grand nombre de facteurs internes ou externes à ces derniers, et notamment d'enzymes telles que la LPL et la HSL. Cela permet aux hormones d'avoir des effets différents selon les cellules, les tissus, et même selon les étapes de notre développement et de notre vie. Dans ce contexte, on peut considérer l'insuline comme une hormone déterminant la façon dont les carburants sont répartis dans notre corps. Après un repas, l'insuline et les différents enzymes qu'elle influence, comme la LPL, déterminent quelle proportion de quel nutriment va être acheminé vers quel tissu, quelle en est la quantité destinée à être brûlée ou stockée, et de quelle façon cela évoluera selon nos besoins et avec le temps. Pour illustrer ces processus, je vous propose de faire appel à une métaphore. Étant donné que ce qui nous intéresse est de savoir si ces carburants seront brûlés pour produire de l'énergie ou stockés, imaginons que l'insuline et les enzymes concernées détermine la direction dans laquelle pointera l'aiguille de ce que je vais appeler notre jauge de répartition du carburant. Figurez-vous une jauge à cadran semblable à celle d'une voiture. Le pictogramme symbolisant que le réservoir est plein va signifier, dans notre cas, stockage de la graisse, et le pictogramme symbolisant que le réservoir est vide signifie pour nous production d'énergie. Lorsque l'aiguille se dirige vers le plein, cela signifie que l'insuline destine une partie disproportionnée des calories que nous consommons à être transformé en réserve de graisse au lieu d'être utilisé pour fournir de l'énergie à nos muscles. Nous avons alors tendance à grossir et disposons de moins d'énergie pour les activités physiques, ce qui tend également à nous rendre sédentaires. Plus l'aiguille pointe vers le stockage des graisses, plus notre organisme stocke de calories, plus nous grossissons. Dans ce cas de figure, quelqu'un ne voulant pas être sédentaire devra manger plus pour compenser cette fuite de calories au profit de ses réserves de graisse. À l'extrémité de ce côté de notre jauge imaginaire, on trouve les personnes souffrant d'obésité morbide. Lorsqu'au contraire l'aiguille pointe vers l'autre côté, celui indiquant que le réservoir est vide et qui signifie « production d'énergie », dans notre métaphore, cela veut dire que nous brûlons une partie disproportionnée des calories que nous consommons. Nous disposons de beaucoup d'énergie pour nos activités physiques et stockons peu de graisse. Nous sommes minces, actifs et mangeons avec modération. Et plus l'aiguille va loin dans cette direction, plus nous avons d'énergie physique et moins nous stockons de graisse, donc plus nous sommes minces. C'est à cette extrémité-ci du cadran que l'on trouve les marathoniens. Étant donné que leur corps brûle les calories, ils ne stockent pas, ils sont très minces et disposent de beaucoup d'énergie. Ils présentent ce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les chercheurs sur le métabolisme appelaient un puissant élan à être physiquement actif. Qu'est-ce qui détermine la direction dans laquelle pointe l'aiguille ? La réponse est plus complexe que la simple quantité d'insuline que l'on sécrète, même si cela en fait sûrement partie. Il faut savoir qu'en consommant les mêmes aliments contenant la même quantité de glucides, certaines personnes sécrètent davantage d'insuline que d'autres et que ces personnes-là tendent à accumuler davantage de graisse corporelle et à disposer de moins d'énergie que les autres. En effet, une glycémie élevée étant toxique pour leur organisme, celui-ci s'active à contrôler leur taux de sucre sanguin et, pour ce faire, est prête à remplir au maximum les adipocytes si cela s'avère nécessaire. Mais la sensibilité de nos cellules à l'insuline constitue un autre facteur important, ainsi que la rapidité à laquelle ces cellules deviennent insensibles, une propriété appelée l'insulinorésistance, en réponse à l'insuline sécrétée par chacun. Cette notion de résistance à l'insuline joue un rôle absolument fondamental dans la compréhension des raisons pour lesquelles on grossit, ainsi que d'une grande partie des maladies associées au surpoids. J'y reviendrai à plusieurs reprises. Plus vous sécrétez d'insuline, plus le risque augmente que vos cellules et vos tissus deviennent résistants à cette insuline. Cela implique qu'il en faudra davantage pour mener à bien la fonction d'élimination du glucose afin de maîtriser la glycémie. On peut décrire cela ainsi. Vos cellules décident qu'elles ne veulent pas plus de glucose que celui dont elles disposent d'ores et déjà, car une quantité trop élevée de glucose est également toxique pour les cellules. Aussi perturbe-t-elle le bon fonctionnement de l'insuline, qui est d'extraire le glucose du sang. Mais le problème, ou la solution selon le point de vue, est que le pancréas répond à cette situation en sécrétant encore plus d'insuline. Et nous voilà en présence d'un cercle vicieux. Lorsque votre organisme sécrète beaucoup d'insuline, par exemple en réponse à la consommation de glucides faciles à digérer, vos cellules sont susceptibles de résister, au moins à court terme, aux effets de cette insuline. Et tout particulièrement vos cellules musculaires, puisqu'elles reçoivent déjà suffisamment de glucose. Mais si ces cellules deviennent résistantes à l'insuline, il vous faut davantage de cette hormone pour pouvoir maîtriser votre taux de sucre sanguin. Votre organisme se met donc à en sécréter plus, ce qui favorise en retour l'insulinorésistance. Et pendant ce temps, cette insuline œuvre à vous faire grossir, à stocker des calories sous forme de graisse, sauf si vos cellules adipeuses sont elles aussi insulinorésistantes. Pour revenir à notre métaphore automobile, le fait de sécréter davantage d'insuline fait donc avancer l'aiguille de votre jauge vers le stockage des lipides. Et vous parviendrez au même résultat si vous sécrétez une quantité saine d'insuline, mais que votre tissu musculaire est relativement prompt à devenir insulinorésistant. Votre organisme sécrétera davantage d'insuline en réponse à cette insulinorésistance, et vous grossirez. Il faut également prendre en compte un troisième facteur, qui est que vos cellules ne répondent pas toutes uniformément à l'insuline. Adipocytes, myocytes ou cellules du foie ne deviennent pas insulinorésistantes au même moment, ni au même degré, ni encore de la même façon. Certaines de ces cellules développent avec le temps une sensibilité accrue, ou moindre, à l'insuline. Cela signifie que la même quantité d'insuline a un impact plus ou moins important sur différents tissus. Et la réponse de ces tissus diffère également, d'une personne à l'autre, mais aussi, comme nous le verrons plus tard, au fil des ans chez un même individu. Plus un tissu est sensible à l'insuline, plus il absorbe de glucose lors de la sécrétion d'insuline. S'il s'agit de tissu musculaire, il entreposera plus de glucose sous forme de glycogène et en brûlera plus pour produire de l'énergie. S'il s'agit de tissu adipeux, il stockera plus de graisse et en libérera moins. Ainsi, si vos myocytes sont très sensibles à l'insuline, mais que vos adipocytes le sont moins, l'aiguille de votre jauge de répartition du carburant se déplacera vers la production d'énergie. Vos muscles absorberont une partie disproportionnée du glucose issu des glucides que vous aurez consommés et l'utiliseront pour produire de l'énergie. Conséquence, vous serez mince et physiquement actif ou active. Si comparé à vos cellules adipeuses, vos muscles sont au contraire relativement insensibles à l'insuline, votre tissu adipeux servira de dépôt à une partie disproportionnée des calories que vous consommez. Conséquence, vous serez en surpoids et sédentaire. Par ailleurs, il faut prendre en compte une complication supplémentaire, qui est que la façon dont nos tissus répondent aux variations de l'insuline évolue avec le temps et selon notre alimentation, comme je l'expliquerai brièvement. À mesure que l'on vieillit, notre organisme devient insulinorésistant. Ce processus débute presque toujours par notre tissu musculaire et n'affecte le tissu adipeux que dans un deuxième temps, quand il l'affecte. En règle générale, les cellules adipeuses restent toujours plus sensibles à l'insuline que les cellules musculaires. Autrement dit, même les cellules musculaires d'une personne mince et active dans sa jeunesse, chez qui l'aiguille de la jauge est donc tout d'abord dirigée vers le brûlage de carburant, sont susceptibles de développer avec le temps une résistance à l'insuline, qui entraînera chez cette personne une sécrétion accrue de cette hormone. Cela signifie qu'à mesure que nous vieillissons, l'aiguille de notre jauge de répartition du carburant se déplace vers la position stockage de la graisse, c'est-à-dire qu'un nombre croissant de calories sont déroutées vers notre tissu adipeux, ce qui en laisse de moins en moins à la disposition du reste de notre corps. C'est ainsi qu'à l'âge mûr, il devient de plus en plus difficile de rester mince et que nous commençons à manifester une multitude d'autres perturbations métaboliques qui accompagnent cette insulinorésistance et l'élévation du taux d'insuline qui va de pair avec elle. Notre tension artérielle augmente, nos triglycérides également, tandis que notre cholestérol HDL, lipoprotéine de haute densité, le bon cholestérol, diminue. Nous devenons intolérants au glucose, ce qui signifie que nous avons du mal à contrôler notre glycémie, etc. Et nous adoptons des habitudes de plus en plus sédentaires, un effet secondaire de la ponction d'énergie se faisant au profit de notre tissu adipeux. En fait, il semble que la croyance populaire selon laquelle on grossit en arrivant à l'âge mûr parce que le métabolisme ralentit, confonde ici encore cause et effet. Il est en effet plus probable que nos muscles deviennent progressivement résistants à l'insuline, avec pour conséquence qu'une partie accrue de l'énergie que nous consommons soit transformé en graisse et qu'il en reste donc moins comme carburant disponible pour les cellules de nos muscles et organes. Ces cellules génèrent alors moins d'énergie, et c'est là ce à quoi on se réfère lorsqu'on dit que le métabolisme ralentit avec l'âge. Notre taux métabolique diminue. De nouveau, ce qui semble être la cause de la prise de poids, ici le ralentissement du métabolisme, en est en réalité un effet. Nous ne grossissons pas parce que notre métabolisme ralentit, notre métabolisme ralentit parce que nous grossissons. Avant de nous pencher sur l'aspect nutritionnel, donc acquis, comportemental, de la question, je veux parler des aliments qui aggravent les problèmes et dont nous n'avons pas besoin pour vivre, il nous faut encore en examiner un aspect inné. Pourquoi de nos jours les enfants grossissent-ils plus et, peut-être même, sortent-ils du ventre maternel déjà plus gros qu'il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans? Il s'agit là d'un des aspects de l'épidémie d'obésité ayant fait une apparition récente dans les études menées à travers le monde. Aujourd'hui, il y a non seulement plus d'enfants obèses que jamais, mais de surcroît, la plupart des études rapportent qu'ils sont sensiblement plus gros qu'avant dès l'âge de 6 mois, un phénomène étant à l'évidence totalement indépendant de leur comportement. Un gros nouveau-né a généralement des parents eux-mêmes en surpoids. Ceci s'explique pour partie en raison des multiples façons dont nos gènes contrôlent non seulement notre production d'insuline, mais aussi les enzymes qui répondent à cette insuline, la manière dont on devient résistant à l'insuline et le moment où cela se produit, et pour partie en raison d'un autre facteur qui ne laisse pas d'être très préoccupant. L'enfant à naître est approvisionné par des nutriments que lui fournit sa mère, à travers le placenta et le cordon ombilical, et ce, proportionnellement à la présence de ces nutriments dans le sang maternel. Ceci veut dire que plus le taux de sucre est élevé dans le sang maternel, plus la quantité de glucose absorbée par l'enfant à naître l'est également. Lorsque le pancréas de l'embryon se développe, il semble qu'il réponde à cette quantité accrue de glucose en générant davantage de cellules destinées à sécréter de l'insuline. En d'autres termes, plus une femme enceinte présente une glycémie élevée, plus son futur enfant développe de cellules destinées à sécréter de l'insuline, et plus il va en sécréter à l'approche du terme. L'enfant naîtra avec davantage de graisse corporelle, aura tendance à sécréter trop d'insuline et risquera de devenir insulino-résistant en prenant de l'âge. Il aura également une prédisposition à trop grossir en vieillissant. Dans les études animales, cette prédisposition ne se manifeste généralement qu'à ce qui correspond à l'âge mûr chez l'humain. Si cette dernière observation s'applique à l'être humain, cela signifie que certaines personnes sont programmées dès le ventre maternel à être en surpoids, lorsqu'elles atteindront l'âge mûr, et ce, même si elles ne montrent aucun signe de cette prédisposition pendant leur jeunesse. C'est là, presque assurément, la raison pour laquelle les femmes enceintes obèses ou diabétiques, ainsi que celles qui prennent trop de poids durant leur grossesse ou souffrent de diabète gestationnel, mettent généralement au monde des bébés plus gros et plus grands que la moyenne. Ces femmes tendent à être insulino-résistantes et à présenter un taux élevé de glucose sanguin. Maintenant, si les femmes en surpoids mettent au monde des enfants en surpoids et si ces enfants en surpoids deviennent plus tard des femmes en surpoids, où cette spirale va-t-elle s'arrêter? Il semblerait que lorsque l'épidémie d'obésité a démarré et que nous avons commencé à grossir, nous ayons également commencé à programmer nos enfants à être de plus en plus gros, et ce, dès les premiers mois de leur existence prénatale. En fait, il ne serait pas étonnant que ce cercle vicieux soit l'une des causes même de l'épidémie d'obésité. Lorsque nous prenons du poids, ce n'est donc pas notre seule santé personnelle que nous mettons en danger, car il se peut que nos enfants doivent, eux aussi, en payer le prix, et leurs enfants après eux, et que chaque génération nouvelle rencontre en conséquence des difficultés croissantes à se défaire de ce problème.